Chronique de la soustraction. Vendu ou démoli. En 2008, l'artiste française Anne-Valérie Gasque imagine un projet artistique pour lequel elle apparaît sous le nom Entreprise Gasque Démolition. L'exposition de 7 blocs présentés sur socle, module architecturaux générique ou sculpture, la chose n'est pas claire. L'exposition est astreinte à un protocole sévère. Tous les deux jours, en l'absence d'une vente qui viendrait stopper le processus, un bloc est détruit. Le projet dure donc 14 jours. Une salle de l'exposition est entièrement dédiée au foudroyage. Commentaire de la revue en ligne Paris Art au sujet de l'exposition. Anne-Valérie Gasque s'approprie des process éloignés a priori du territoire de l'art lorsqu'il est occupé par l'idée de conservation. Et de fait, les foudroyages en cas de non-vente présentent un gros inconvénient et deux avantages. Inconvénient, ne subsiste dans le sillage de l'artiste que des œuvres ayant eu du succès auprès d'un public. Le corpus est incomplet et sera pour toujours incomplet. Mais ceci peut être également vu comme un avantage. Ne subsiste alors que les œuvres ayant généré une interaction. Uniquement celle-là mérite de survivre. Les foudroyages en cas de non-vente d'Anne-Valérie Gasque présentent un autre avantage. Il est de taille. Pas de stock. Les œuvres sont soit acquises, soit détruites. L'artiste peut repartir léger. Art, économie, valeur, pour quelles articulations? Existe-t-il des œuvres sans valeur pécuniaire, mais ayant pourtant une valeur sur le plan de l'art? On ne peut que répondre par un oui, c'est évident. À l'inverse, l'absence de valeur pécuniaire peut-elle agir négativement sur l'œuvre d'art, au point de l'éclipser? Dans une autre chronique de la soustraction, nous évoquons le Salvage Art Institute, plateforme de recherche new-yorkaise dédiée aux œuvres détériorées, ayant perdu toute valeur et rangées pour toujours dans les réserves des groupes d'assurance, ayant dédommagé leurs infortunés propriétaires. On aimerait apprécier l'art pour lui-même. La chose est non seulement possible, mais surtout désirable. Mais ce serait oublier ce qui fait les prix ou ce que les prix font. À Paris, entre 2014 et 2016, s'est tenu un séminaire intitulé « Chose de prix ». D'après son initiateur, le philosophe français Patrice Maniglier, « Chose de prix » est le résultat du travail d'un collectif associant des praticiens de l'art, artistes, curateurs, critiques, collectionneurs et des praticiens des sciences humaines et sociales, sociologues, anthropologues, économistes, philosophes, historiens de l'art et de la littérature, qui se sont réunis pendant 2 ans autour du prix des choses ou plus exactement de ce que le prix fait aux choses. Maniglier toujours, nous nous sommes demandé ce que signifiait pour une chose d'avoir un prix et de passer par exemple du cadeau à la marchandise, de l'objet de collection à la relique, de l'échantillon gratuit aux déchets. Il nous a semblé que les choses d'art étaient un laboratoire privilégié pour observer ces mécanismes, ne serait-ce que parce que les principes de formation des prix y sont particulièrement obscurs. Mais revenons-en à notre pivot, la soustraction. En 2019, valeur ou pas, est-il encore pertinent de réaliser des œuvres d'art? On ne peut que constater qu'il y en a trop. Le cas de figure qui voit les artistes anéantir leurs œuvres sont très nombreux. Si nombreux que l'on peut parler sans se tromper d'une histoire de l'art alternative qui peut être mise en parallèle avec l'aventure des gnostiques telle que l'a décrit l'écrivain français Jacques Lacarrière. Une histoire de l'ombre, une contre-histoire dont les nappes successives tentent désespérément de nier l'histoire elle-même. Les gnostiques, écrit Lacarrière, se moquent de la postérité, de la pérennité, du futur, de tous ces pièges et ces filets du temps où les hommes se laissent prendre. Ce qu'ils prônent, c'est une fuite immédiate, une désertion hors du monde et des siècles. Patrick de Haas, maître de conférence en histoire de l'art contemporain à la Sorbonne, remarque d'autre part qu'il y a 2 façons d'empêcher qu'une œuvre dérangeante ne produise ses effets. Ou bien la détruire physiquement, si possible, jusqu'à son souvenir, ou bien la muséifier, si possible, jusqu'à l'anesthésie complète. Achevons cette chronique en abordant un autre phénomène, celui des artistes qui quittent l'art. Ici aussi, les cas de figure abondent depuis plus d'une centaine d'années. Leurs raisons sont extrêmement diverses. C'est le cas de l'artiste conceptuel Alexander Melamide, d'origine russe et basé à New York. D'après le New York Times, à partir de 2004, après une période faste durant laquelle il célèbre et pourfend la culture de masse, en duo avec un autre artiste, Vitaly Komar, lui aussi américain d'origine russe, Melamide quitte les circuits officiels de l'art pour devenir underground. Il dit avoir perdu sa foi. Ne le voyant plus apparaître pendant longtemps, certains se demandent même s'il n'a pas tout simplement abandonné son activité d'artiste. Où est passé Alexander Melamide ? Toujours dans le New York Times, quelques années plus tard, soit en 2014, dans un entretien avec la journaliste Penelope Green, Melamide, qui n'a toujours pas disparu, se confesse. Il dit « L'art n'est pas seulement une pollution physique, c'est aussi une pollution intellectuelle, une pollution spirituelle. Nous étions promis au salut par l'art et je dois affirmer que j'étais un croyant passionné jusqu'à ce que je réalise que c'était une forme de subordination parmi d'autres, encore un de ces enseignements semi-religieux à la Mary Baker Eddy ou Madame Blavatsky, un des membres fondateurs de la Société théosophique. » L'entretien se poursuit ainsi. À l'attention de toutes celles et ceux qui essaient de sortir de l'affliction que leur provoque le fait d'être dans l'art, pourquoi ne pas créer un nouveau cursus, des cours d'électricité ou de plomberie ? Pourtant, Alexander Melamide est sérieux. Fin 2014, il se fait remarquer avec un projet incongru, le Melamide Institute of Responsible Re-Education. Créé à New York, l'Institut est une collaboration avec Philippe Gullet, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il est un entrepreneur. Que propose l'Institut ? De rééduquer tous les artistes qui souhaitent quitter l'art. À toutes celles et ceux qui se sont formés en école d'art, dit la note d'intention qui circule alors sur l'Internet, arrachés de leurs rêves par la dure réalité, pas de tonnes d'argent mais un avenir de pauvreté, pas de succès monumental mais des opportunités ratées, nous offrons la possibilité d'obtenir des certificats dans les métiers suivants. Réparation d'appareils, réparation automobile, autocad, menuiserie, garderie de jour, aménagement paysager, toilettage, plomberie, sécurité, etc. La chose la plus improbable dans cette affaire, c'est qu'il n'existe plus une seule trace de l'Institut, seulement 5 ans après sa création. C'était « S'interdire de faire des objets d'art comme soustraction ».